adoptée aujourd'hui et payée en 2012. Nous avons toutes et tous lu cette réclame publicitaire. Les communicants s'amusent de notre impatience pour nous faire consommer. Vous voulez cet écran plat, mais il n'est pas dans vos moyens. Pas de problème, achetez aujourd'hui et payez plus tard. Attendre patiemment est un exercice difficile que nous pratiquons de moins en moins. La semaine dernière, en première page du Dauphiné, un encart, « Je veux tout, tout de suite, portrait de la nouvelle génération ». L'attente patiente est une vertu que le peuple biblique a beaucoup pratiquée. Le peuple de Dieu de la première alliance a traversé des siècles de souffrance, de persécution, d'oppression et d'injustice à attendre la délivrance. Une attente en prière, notamment dans les psaumes. J'attends le Seigneur, j'attends de toute mon âme et j'espère en sa parole. Alors bien entendu, il y a eu des moments d'impatiente révolte. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi restes-tu si loin sans me secourir, sans écouter ma plainte ? C'est le psaume 22. Les psaumes, vous le savez, sont des poèmes mis en musique. Une façon pour l'homme de crier à son Dieu, sa joie, sa tristesse, sa révolte. Tous ces psaumes pourraient être nos prières à chacun de nous aujourd'hui. Alors le peuple de la première alliance et le peuple de l'attente, et nous, peuple de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, le sommes-nous toujours ? Savons-nous attendre ? Quand nous sommes malades, nous voulons tout de suite être guéris. Quand nous sommes dans le deuil, nous voulons tout de suite que les larmes cessent de couler. Nous savons que le peuple juif de la première alliance est toujours en attente du Messie. Nous, chrétiens, l'avons reçu, ce Messie, en Jésus-Christ. Alors vous pourrez me dire, mais que devons-nous donc attendre encore ? Ce matin, dans ce temple, Virginie a allumé pour nous deux bougies pour le deuxième culte de l'Avent. Chez vous, dans vos maisons, vous avez peut-être ressorti les calendriers de l'Avent pour rythmer cette attente de Noël. Mais alors, attendre quoi ? Attendre le 25 décembre, la fête de la naissance de Jésus ? Eh bien, oui, mais en même temps, pas uniquement. Savez-vous que l'attente du jour de Noël n'est pas le thème principal de l'Avent dans son sens liturgique. L'Avent parle en fait surtout de la promesse que Jésus nous a faite de revenir à la fin des temps pour que s'accomplisse le royaume de Dieu à jamais. L'Avent est l'espérance que Dieu accomplira sa promesse, qu'un jour cesseront les cris, les larmes, les guerres, les catastrophes. Vous avez peut-être tous ces images en tête, ces paroles du retour de Jésus, puisqu'on est dans le thème de la musique. Ça m'a fait penser au film « La vie est un long fleuve tranquille ». Vous vous souvenez peut-être quand la chorale chante « Jésus revient, parmi les siens ». Voilà, une façon d'annoncer la venue de Jésus en musique. Chez nous, on a un peu plus de mal. Je vois mal Marie-Vonne entraîner la chorale Capernaum en faisant chanter « Jésus revient ». Pourquoi pas ? Alors, peut-être l'année prochaine, Marie-Vonne. Disons que dans nos églises réformées, le retour du Christ est un thème qui est peu abordé. Les esprits peuvent vite s'échauffer vers des prises de position radicales. Et dans l'Église, il y a typiquement deux positions opposées à ce propos. La première s'appelle le millénarisme. Ses adeptes sont promptes à l'excitation rapide et prédisent à tour de bras les dates de l'échéance. Alors la prochaine, je vous le signale, 12-12-2012 à 12h12. Et cette tradition remonte pour le christianisme à ses origines. Dans la Bible, Paul demande aux Thessaloniciens de se remettre au travail. Ils avaient a priori déserté le cours de leur vie pour se consacrer au retour immédiat de Jésus. Et nous retrouvons des traces de ce mouvement au cours des siècles. Au XVIIIe siècle, le théologien John Wesley disait que la dépravation de son temps annonçait le retour proche. Il y a, c'est vrai, toujours la tentation de lire dans les catastrophes qui nous entourent les signes bibliques du retour du Fils de l'homme. Et aujourd'hui, il n'est pas rare, au cours de mes visites parmi nos paroissiens, d'entendre tel ou tel qui s'interroge sur la fin du monde au vu des catastrophes omniprésentes. Et dans la Bible alors, que dit-on sur ce retour de Jésus-Christ parmi nous? Jésus parle-t-il d'un retour daté? Eh bien, certaines de ses paroles ont été interprétées dans ce sens. Regardons le 13e chapitre de Marc, dont Marie-Yvonne nous a lu un extrait. Il commence par l'annonce de la destruction du temple. « Tu vois ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Jésus parle. Et immédiatement, ses disciples le questionnent. « Dis-nous, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe pour annoncer ces choses ?» Mais Jésus n'avait pas invoqué la fin des temps. Alors il les met en garde. « Prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup viendront en se servant de mon nom et diront « C'est moi ». Et ils égareront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre, de rumeurs de guerre, ne vous alarmez pas. Cela doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. » Et effectivement, en l'an 70, quand les Romains mettent à terre le temple, le saint des saints, beaucoup de personnes pensent à la fin des temps. Et pourtant, malgré cette blessure terrible infligée au peuple de Dieu, ce peuple a survécu et le monde a continué. Comme Jésus leur avait dit, les disciples ont franchi la colline pour quitter Jérusalem. Ils se sont échappés vivants et la mission de l'Église s'est poursuivie. En chacun de nous, les temples se détruisent, parfois dans des étapes de nos vies difficiles, troublées par des cataclysmes intérieurs. Alors comment entendons-nous cette invitation de Jésus à ses disciples à franchir la colline et à nous échapper vivants pour que sa mission continue? Dans cet enseignement sur la fin des temps, Jésus termine par le passage que Marie-Yvonne a lu. Et c'est très clair, lorsque le Nouveau Testament parle de la fin des temps, une chose revient toujours, personne n'en connaît le moment. Le kairos en grec, ce terme intraduisible en français qui indique à la fois un temps mais un moment construit entier, reste imprédictible. L'heure est inattendue. Alors à l'autre bout de cette tendance, il y a l'apathie et le pessimisme. C'est fichu, on a été floué, il ne reviendra jamais. Ce n'est pas nouveau, et même dans notre Bible, une fois l'excitation après la résurrection du Christ retombée, des gens commençaient déjà à émettre de sérieux doutes en se raillant des chrétiens. Il a promis de venir, n'est-ce pas? Eh bien, où est-il? Où est-il? Nos pères sont morts et tout reste dans le même état que depuis la création du monde. Actuellement aussi, nous connaissons cette tendance à perdre espoir. Après 2000 ans d'attente, certains estiment qu'il faut s'arrêter de se voiler la face. Christ ne reviendra pas. Là aussi, dans mes visites, il m'arrive souvent de partager des doutes et des désespoirs de personnes qui ont la foi, mais qui finissent par douter. Douter de cette réelle présence du Christ. Il y a encore ceux, peut-être avec un esprit plus intellectuel, qui vont proposer de comprendre cette idée du retour symboliquement. Oui, le Christ revient quand nous l'accueillons en nous. Jésus revient quand l'Esprit nous touche. De fait, beaucoup de chrétiens croient en ce retour du Christ de façon symbolique. Pourtant, ce passage de Marc nous redit son retour, un maître qui rentre chez lui en personne. Avant de terminer, je vous propose une petite histoire. Elle se passe dans l'État de Nouvelle-Angleterre durant l'époque coloniale, pendant une séance du Parlement. Il y eut une éclipse. Son début, avec le début de l'obscurité, crée un vent de panique dans l'Assemblée. Des membres commencent à courir d'ici, de là. Certains sont persuadés que la pénombre annonce la venue du Christ et prônent l'ajournement immédiat de la séance. Au milieu de l'excitation, un parlementaire des plus raisonnables se lève et va au pupitre. Mes chers collègues, si ce n'est pas la fin du monde, alors mieux vaut ne pas prendre le risque d'ajourner la séance. Car s'il ne se passe rien, nous aurions l'air de fiefs imbéciles d'avoir tout annulé. Et si c'est réellement la fin du monde et la venue du Christ, alors je préfère qu'il trouve une assemblée au travail plutôt que des gens excités qui courent en tous sens. Alors, allumons les bougies et remettons-nous à l'œuvre. Peut-être que ce parlementaire nous montre une voie médiane pour mener notre attente chrétienne. Une voie entre l'excitation constante et l'apathie de celles et ceux qui ont perdu toute espérance. Une voie qui se comprend dans deux directions. Rester éveillé en allumant les bougies, en chantant, en priant, et ne pas cesser de travailler au royaume de Dieu, malgré tout ce qui de l'extérieur nous accable sûrement. Veiller et travailler, voilà notre itinéraire d'espérance. Et pourquoi pas ajouter chanter, pour reprendre peut-être une célébrité française, la vie, c'est bien plus marrant. C'est bien moins désespérant en chantant. Alors, il n'y a pas d'éclipse de soleil ce matin. Pourtant, nous avons allumé deux bougies, les bougies de la veille. Ces bougies qui nous évitent l'assoupissement de celles et ceux qui ont cessé d'espérer. Ces bougies symbolisent cette lumière indestructible qui luit dans nos éclipses personnelles et qui nous redit « Oui, il vient ». Amen.